Cette émission vous est présentée par Abyss Ingrédients, fabricant d'ingrédients naturels marins et durables.
Sans food avec Uni Lassal, c'est sur Nutri Radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% food avec Uni Lassal sur Nutri Radio, la seule école d'ingénieurs qui propose une formation d'ingénieur en alimentation et santé. On est donc ravis de retrouver chaque semaine un spécialiste, un expert, enseignant, chercheur sur un sujet qui est vraiment dans la cible de Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Laoud qui est enseignante, chercheur en bioprocédé. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Ça va bien Isabelle ?
Très bien, merci. Et vous ?
Bah oui, ça va. Écoutez, moi je pense qu'on va passer encore un bon moment parce qu'aujourd'hui, un sujet qui parle et en même temps qui parle pas trop. Donc vous allez bien pouvoir l'expliquer, c'est bien. Le sujet étant comment la blockchain permet aux consommateurs de connaître l'origine des produits. Alors, cette fameuse blockchain, on entend parler en long, en large, en travers. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Vous allez bien vraiment pouvoir nous expliquer tout ça, Isabelle.
Ok, bon, donc cette blockchain, c'est déjà très simple. Donc il suffit d'avoir un smartphone et de récupérer la majorité des produits alimentaires. On va scanner un QR code et c'est avec ce QR code, donc gratuitement, sans avoir créer un compte ou quoi que ce soit, on peut retrouver un peu l'histoire de notre produit alimentaire. Donc on peut savoir c'est qui le producteur, où il a été transformé, comment il a été transporté aussi. Et finalement, comment il est arrivé chez nous. Donc, ça permet d'avoir une vraie information si on s'intéresse à l'environnement, si on s'intéresse aussi à tout ce qui est éthique, au bien-être animal. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une idée complète sur l'histoire de notre produit, sur sur ce qu'il a passé avant d'arriver chez nous.
D'accord, donc plus de transparence, on va dire, pour une meilleure traçabilité des produits, pour savoir aussi, c'est peut-être aussi plus facile pour le rappel, la gestion des rappels des produits.
Tout à fait. Donc, en fait, le rappel, avant, ça prenait plusieurs jours ou plusieurs semaines pour retrouver la traçabilité dans certains produits. Là, c'est en quelques secondes. On peut vraiment retrouver très rapidement notre produit, qu'est-ce qu'il a fait durant son cheminement pour arriver jusque nous. Et ça va coûter beaucoup moins d'argent, ça va être plus safe pour le consommateur parce que ça peut être retiré beaucoup plus facilement du marché.
Très bien. Donc voilà, on a en tout cas sur ce domaine d'application... Connaître la traçabilité des produits. Est-ce que les consommateurs, puisque maintenant qu'il y a une transparence plus importante, est-ce que vraiment les consommateurs, ils sont au taquet et ils l'utilisent vraiment? Est-ce que ça a un vrai impact ou alors on continue d'acheter le moins cher selon, vous savez, on est dans une période un peu compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que suite à la multiplication de tout ce qui est scandale alimentaire, les gens se sont posés plus de questions. Et puis, il y a aussi toutes les questions environnement. Donc, ça pousse aussi les gens à s'intéresser au circuit court, où mon produit était, il vient d'où. Et il y a toute la partie aussi de... C'est un peu facile, donc c'est simple, c'est gratuit, donc on peut l'essayer. On le voit bien dans les supermarchés, il y a pas mal d'applications qui nous donnent la composition de notre produit, tout ce qui est additif. On voit bien les gens, ils s'intéressent à ça, ils le font en supermarché pour comparer deux produits. Après, au niveau du choix, ça va revenir à la personne de prendre la décision, mais ça reste un outil d'aide à la décision de ce consommateur.
Est-ce que ça a une influence sur le prix ?
Je dirais non, parce que c'est juste une façon de communiquer sur notre traçabilité. Donc, au lieu de le faire sur un fichier Excel ou sur un papier, on a communiqué beaucoup plus facilement avec un QR code. Donc, c'est vraiment juste une facilité de communication, pas plus que ça.
D'accord. Donc, et ça, tous les opérateurs sont obligés d'avoir cette transparence ?
Donc, il n'y a pas d'obligation actuellement. Donc, c'est un peu ça qui va pousser le consommateur peut-être à choisir un produit, non pas un autre, parce que lui, il est plus transparent qu'un autre produit. Donc, comme il n'y a pas d'obligation, les gens font un peu comme ils veulent, les producteurs, les transporteurs. Donc, c'est à eux de décider, est-ce que je veux être transparent, de mettre ces informations ou pas.
Ah, d'accord, très bien. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. Nous sommes avec Isabelle Laoud. C'est juste après ceci.
Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. Food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
La suite de cette émission 100% Food sur Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui avec Isabelle Laoud qui est enseignante chercheure en bioprocédés et nous parlons de ce sujet très important, en tout cas très important pour le consommateur. Plus de transparence, hein, puisque on parle de la blockchain et comment cette blockchain elle nous permet de connaître l'origine des produits. Alors on a vu que c'était pas obligatoire encore pour tout le monde, la traçabilité, enfin vraiment utiliser cette transparence totale. Les marques peuvent le faire ou pas. Est-ce qu'on peut supposer que pourquoi les marques ne le font-elles pas? Si on se dit qu'aujourd'hui le consommateur il prend l'habitude d'aller utiliser ce QR code pour tout savoir, quand c'est pas possible, est-ce que ça veut dire qu'il y a un loup?
En fait, il y a quelques difficultés parce que ça reste un domaine, on va dire, une nouvelle tendance. Il y a des difficultés au niveau du producteur. Est-ce que le producteur a décidé de rentrer les informations concernant les poules qu'il a élevées? Donc, il y a cette information-là qui peut manquer. Si on n'a pas toutes les infos, donc notre blockchain va manquer certains blocs. Donc là, il y aura un souci. On ne peut plus faire ce QR code qui permet de suivre le tout. Il y a parfois aussi des problèmes plus à... Bon, les gens ne veulent pas dévoiler peut-être d'une façon transparente comment sont produits ces produits-là. Donc, s'ils ne veulent pas le faire, s'ils n'arrivent pas à le faire pour des questions de technologie, en ce cas, oui, on va retrouver notre produit sans le QR code.
Et alors, ça veut dire que, par exemple, cette transparence, ça oblige aussi, on pourrait dire que certaines marques ne veulent pas pour des raisons de confidentialité, parce qu'on va arriver peut-être jusqu'au fournisseur, et peut-être ça permet aussi à des concurrents d'aller démarcher certains fournisseurs. Je vous dis ça comme ça me vient en tête. Hein.
Oui, ça peut être une raison aussi. Donc, il y a plein de défis techniques et technologiques pour sa mise en place. C'est pour ça que ça a commencé un peu par plusieurs partenariats où il y a des sociétés qui font plus numérique avec des sociétés d'agroalimentaire qui se sont réunies ensemble pour pouvoir vraiment arriver à résoudre ces défis, que ça soit technique, technologique, mais aussi la partie concurrence, confidentialité.
Et alors, vous disiez tout à l'heure que quand il manque un élément dans cette fameuse pour reconstituer cette blockchain, en fait, un seul maillon manque et on peut pas là, c'est pas possible de générer ce QR code.
On peut les générer, mais on va voir à un moment donné que dans l'historique de ce poulet, il manque une phase de sa vie où on n'a pas su qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ça fait moins de transparence au niveau du produit final.
D'accord, c'est comme un CV. Il manque quelques années. On dit, tiens, vous étiez où là-bas? Ah, j'étais une année, comment on dit ça? Une année blanche. Ça s'appelle comment ces trucs sur le CV quand on fait une année sabbatique? Voilà, il était en année sabbatique, le poulet.
Tout à fait.
Mais comment cette blockchain elle garantit l'authenticité de ces informations, que tout soit très très sécure?
Donc en fait, la traçabilité c'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps, mais ça se faisait sur papier, sur des fichiers Excel. Il y a des gens qui rentraient des valeurs, parfois ils pouvaient faire des fausses manipulations. Mais là, l'avantage avec la blockchain, c'est que déjà c'est des registres numériques, donc il y a des capteurs ou des objets connectés qui nous ont donné plein d'informations. Donc on essaie de réduire quand même les fausses manipulations des gens, des personnes. C'est décentralisé et c'est sécurisé. Donc une fois j'ai flashé un peu un QR code pour mon poulet parce qu'il est arrivé en grande distribution, je ne peux plus faire de modifications pour dire il est arrivé aujourd'hui s'il est arrivé avant-hier. Donc c'est vraiment figé dans son bloc et ça va le connecter tout de suite au bloc précédent. Donc je n'ai pas trop la main pour aller changer des choses et c'est ça qui donne un peu cette confiance au consommateur parce qu'il sait que ça a été fait d'une façon un peu numérique, décentralisée, figée où on n'a pas rentré des valeurs à la main pour décorer un peu le QR code final.
Ça, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices concrets pour les consommateurs lorsqu'ils ont accès à ces informations concernant les aliments qu'ils achètent? Est-ce qu'il y a un autre bénéfice que la traçabilité?
Oui, donc déjà, il peut faire tout ce qui est analyse de cycle de vie. Donc, il peut savoir son produit, il a quoi comme empreinte carbone, il vient d'où. Donc, il peut avoir une idée de sa vie, on va dire, environnementale. Il peut aussi connaître tout ce qui est en rapport avec la partie éthique. Donc, est-ce que ça correspond à ses valeurs ou pas? Donc, l'avantage aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est la partie sanitaire. Donc, on peut faire un retrait d'un produit non conforme d'une façon quasi instantanée. Donc, ça, c'est un grand avantage par rapport à tout ce qu'il y a eu comme scandale alimentaire, aux intoxications aussi. Et je pense aussi, ça peut nouer une certaine confiance entre les différents acteurs. Donc, à part le consommateur, les acteurs, que ce soit la grande distribution, que ce soit le producteur, l'éleveur, l'industrie agroalimentaire, donc tous ces acteurs de notre produit final, ils peuvent aussi avoir plus de confiance entre eux en ayant cette blockchain qui est mise en place.
Très bien. Donc, pour le consommateur, très très concrètement, aujourd'hui, en magasin, on va scanner un produit et on a normalement, pour les marques qui jouent le jeu et les industriels qui jouent le jeu, on a tout l'historique, on a tout le CV du produit qu'on achète. C'est bien ça. Et on peut intervenir à partir de quel moment si quelque chose nous paraît pas convenable. Est-ce qu'à partir de quel moment on peut, nous en tant que consommateurs, agir là-dessus? Est-ce que juste on ne l'achète pas ou est-ce qu'il y a des plateformes ou des choses où on peut faire des remontées?
Justement, il y a des plateformes où on peut faire un petit chat en ligne pour dire que voilà, ça me choque que ce produit a fait cette étape-là. Donc, il y a des plateformes de discussion où on peut même poser des questions. Si on voit que notre produit vient d'une certaine usine de loin, on peut poser la question avec le chat live pour voir pourquoi il vient de là, même s'il y a une usine à côté de chez moi et qui peut faire le même produit. Donc, peut se poser aussi des questions comme ça.
Sur quel site, ça on va où pour ça?
Ça dépend. C'est le QR code. Donc, dès qu'on le flash, soit c'est un QR code qui nous met l'image du producteur, un peu l'histoire, soit c'est un QR code avec un peu le chat. Donc, c'est un peu l'avantage qu'on n'a pas à avoir une application installée ou à créer un compte qui peut nous paraître parfois un peu compliqué. C'est juste le QR code qui décide où il veut nous envoyer.
Très bien, donc voilà, on va à suivre. J'imagine que tous les auditeurs qui ont écouté cette émission, qui ne l'ont pas encore fait, on va s'amuser à aller flasher un peu les produits pour vérifier un petit peu ce que vous nous dites là et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de QR codes un peu partout, on ne pense pas forcément à tout QR codé. Si l'expression n'existait pas, on peut peut-être l'installer QR codé. Bon, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission, que ça passe vite.
Sans food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.
Isabelle Laoud est notre invitée aujourd'hui, qui est enseignante chercheure en bioprocédé chez Uni La Salle. Évidemment, on parle de la transparence alimentaire et puis voilà, savoir comment cette blockchain elle permet aux consommateurs de connaître l'origine des produits. On l'a vu, c'est très simple. Hein, a priori, tout passe par ce QR code pour avoir une traçabilité pour les acteurs les industriels qui jouent le jeu et voilà, permettre d'avoir une confiance plus grande entre nous, les consommateurs et les marques. Et puis aussi faire évoluer nos connaissances, n'est-ce pas, Isabelle? Alors, on va s'attaquer maintenant dans cette dernière partie d'émission aux défis, aux perspectives dans l'adoption de la blockchain alimentaire pour se demander quels sont les principaux défis techniques auxquels l'industrie alimentaire est confrontée lors de l'adoption de cette technologie blockchain.
Bon, le premier, je dirais, c'est par rapport à la technologie. Donc, j'avais parlé de pas mal de capteurs ou d'objets connectés. Donc, ces capteurs, ils peuvent tomber en panne, ils peuvent être piratés. La même chose pour n'importe quelle machine qui nous sert à rentrer ces données-là. Et donc, c'est un peu la contrainte technologique. Donc, il faut vraiment que cette source d'infos soit fiable. Et comme tout, ça peut lâcher, ça peut tomber en panne. Donc, ça, c'est un premier défi concernant un peu la véracité de l'information. Après, il y a aussi tout ce qui est en fonction du producteur. Est-ce qu'il a les technologies nécessaires pour pouvoir rentrer ces infos? Bon, parfois, on essaie de le mettre d'une façon la plus ergonomique possible. On essaie que ça soit avec un SMS qu'on peut envoyer l'info. Donc, ça facilite un peu la vie du producteur, du transporteur ou même de l'opérateur sur une ligne de production. Un troisième défi, ça peut être aussi lié au volume de transactions qui sont à faire. Donc, il y a pas mal d'infos à rentrer. Donc, c'est parfois pas évident selon l'activité, selon le nombre de participants dans cette blockchain aussi. Donc, ça aussi, ça peut être un défi.
D'accord, donc à l'origine, il y a une personne, le premier, qui rentre des infos, c'est ça?
Donc lui, il rentre les infos dans son bloc, disons c'est le producteur, il rentre les infos dans son bloc, une fois il soumet les infos, elles sont soumises, et puis après, la personne qui a transporté ces produits-là, elle va aussi rentrer les infos sur tout ce qui concerne la chaîne de froid, est-ce que ça a été respecté ou pas, ça vient d'où. Donc là aussi, il rentre les infos dans son bloc, et ainsi de suite. Donc chacun dispose de son bloc d'infos, et il suffit qu'un bloc ne fonctionne pas bien ou qu'il n'y avait pas assez de technologie pour rentrer ces infos, c'est là où ça peut bloquer.
D'accord. Il faut quand même aussi que tout le monde soit de bonne foi, parce qu'on peut très bien imaginer, dire, bah, tiens, là, ça vient de tel truc. Bon.
Oui. Donc après, c'est un peu aussi les avantages de la blockchain, c'est qu'on sait ce bloc a été fait par qui. Et donc, s'il y a des soucis, on sait sur c'est qui la personne qui a construit ce bloc-là. Donc, c'est pas vraiment la marque qui va prendre tout ce qui peut venir appeler niveau, on va dire, s'il y a un accident, une intoxication. Mais c'est vraiment chacun est responsable de son bloc. Donc, ça peut garantir encore plus et ça peut donner confiance aux consommateurs.
Oui, effectivement, s'il y a une traçabilité à chaque étape et une identification à chaque étape de la construction de cette blockchain. Alors, est-ce que les réglementations actuelles alimentaires, elles sont suffisantes ou est-ce qu'elles pourraient encore plus s'améliorer pour favoriser l'adoption de cette blockchain, puisqu'on on l'a vu, les industriels ne sont pas obligés?
Oui. Après, je pense que comme ça se démocratise de plus en plus, ça va permettre d'avoir de standardiser déjà les technologies, les modes opératoires, comme ça, avec ce QR code, qu'est-ce que je dois avoir? Est-ce que je dois avoir un chat ou pas? Est-ce que je dois avoir des photos, que du texte? Donc, ça va permettre de standardiser vraiment tout. Et comme il y a plein de collaborations qui sont actuellement en cours sur tout ce qui est technologie à adopter, le format, je pense qu'une fois ça se démocratise un peu plus, ça permet déjà aux personnes, aux acteurs de faire confiance à cette technologie, aux fournisseurs aussi de l'utiliser plus, et dès que le fournisseur veut vraiment cette technologie, je pense qu'on serait obligé finalement de l'adopter.
Et alors justement, vous parliez des négociations en cours, quels sont les partenariats ou les initiatives qui visent à surmonter les obstacles à l'adoption de cette blockchain dans l'industrie alimentaire?
C'est plus des partenariats de grandes usines qui font tout ce qui est la partie numérique, donc la partie blockchain théorique qu'on peut voir en Bitcoin ou ailleurs, donc la partie vraiment numérique pure, et un partenariat avec une usine qui fait la partie agroalimentaire pure ou un producteur qui fait la partie agroalimentaire. Donc c'est des partenariats qui combinent des compétences numériques mais aussi alimentaires, parce que c'est eux quand même qui connaissent leurs produits et qui savent quelles sont les infos importantes à rentrer ou pas.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup Isabelle. Est-ce que vous, tiens, en tant que consommatrice, vous utilisez ces fameux QR codes pour aller connaître l'origine des produits que vous achetez?
Oui, et je vois bien que ça commence à être de plus en plus déployé sur plusieurs produits. On le voit sur le lait, sur le poulet, sur tout ce qui est poisson. On voit qu'il y a quand même pas mal de marques qui commencent à s'y mettre et ça fait plaisir de le scanner. Même si je connais mon produit, mais ça fait plaisir de le scanner, de savoir un peu son cheminement, son historique, de connaître un peu, on va dire, la différence entre deux produits différents, même comment les produits différents, ils présentent leurs infos, parce que ça aussi, ça peut être intéressant, mais parfois même c'est ludique et c'est amusant pour comparer deux produits différents.
Et c'est bien aussi d'éduquer les enfants à faire ça le plus tôt possible, peut-être, enfin, plutôt possible, il ne faut pas leur mettre un portable le plus tôt possible, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, ouais, comprenez, peut-être les ados, dès qu'on
rentre au collège. Oui, tout à fait, dès qu'ils peuvent avoir un smartphone, c'est l'idée, c'est qu'ils soient, et je pense qu'ils le sont de plus en plus, ils sont conscients de tout ce qui est enjeu environnemental, sociétal, donc ils se posent plus de questions sur tout ça.
Et oui, et comme ça, si les ados, parce que les enfants vont me dire, mais non, pas de portable pour les enfants, mais si les ados qui ont un portable s'y mettent, ça veut dire que ça va être un réflexe et les marques qui ne joueront pas le jeu, donc voilà, seront forcément suspectes de quelque chose.
Oui, tout à fait.
On va se dire ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Isabelle. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Lahoud. On rappelle, vous êtes enseignante chercheure chez Unilassal, spécialisée en bioprocédés. Et c'est une émission que vous allez pouvoir retrouver si vous venez de nous rejoindre. Eh bien, ce sera dispo en podcast dans son intégralité à partir de dimanche 18h, non seulement sur nutriradio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Isabelle.
Merci, au revoir.
C'est le retour de la musique, tout de suite, sur Nutriradio. Restez avec nous. Thank you.
100% Food avec Uni La Salle, c'est sur Nutri Radio.